DW. Pulsation. De nombreux jeunes étudiants ou migrants d'Afrique subsaharienne sont installés au Maroc. Parmi eux, beaucoup sont chrétiens pratiquants. Et leur nombre croissant transforme la société marocaine, notamment concernant la religion. Nous irons à Rabat voir ce qu'il en est, avant de nous souvenir de la découverte du plus gros diamant brut de l'histoire. Mais tout d'abord, le mot du jour, vaccin. Bonjour à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
La pandémie de coronavirus tient le monde en haleine et depuis quelques semaines, le mot vaccin est dans toutes les bouches. C'est l'occasion pour Pulsation de revenir sur l'origine et la signification du terme. Vaccin vient du latin vacca, qui veut dire vache. Et oui, l'animal domestique d'élevage. Mais qu'est-ce que les bovins ont à voir avec une substance hautement élaborée censée nous préserver des maladies? Eh bien, tout simplement, le fait que la vaccine, la variole de la vache, a été le premier vaccin inoculé à l'homme dans le but de l'immuniser contre la variole humaine. C'est le médecin anglais Edward Jenner qui en a fait la découverte en 1798. Le mot « vaccin » est resté depuis dans la langue française pour désigner toute substance biologique visant à immuniser un organisme face à une maladie. Sachant qu'il existe aussi des vaccins thérapeutiques qui, eux, sont également capables de lutter contre la maladie qui s'est déjà déclarée chez un individu. Virus, en français virus, c'est le titre de cette chanson du rappeur allemand Capital Bra. Il ne s'agit de la pandémie de Covid qu'au deuxième degré. En fait, les paroles évoquent plutôt l'amour et la musique. Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. Les églises chrétiennes au Maroc ont longtemps été désertes. Désormais, cela a changé. L'arrivée de nombreux chrétiens d'Afrique subsaharienne a transformé le paysage dans les lieux de culte catholiques et protestants du royaume, à forte majorité musulmane. Nous sommes dans Saint-Pierre, la cathédrale de Rabat. Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, la messe rassemble beaucoup de monde ici. Évidemment, le port du masque est obligatoire, la température est mesurée à l'entrée et du gel désinfectant est distribué. La plupart des fidèles sont des étudiants ou des migrants venus d'Afrique subsaharienne pour chercher une vie meilleure ou fuir le terrorisme, la violence et la répression. Ils vivent aujourd'hui au Maroc et ont transformé les pratiques chrétiennes dans le pays, observe le cardinal Cristobal Lopez.
Ça a tout changé. Des endroits où il n'y avait plus de communautés chrétiennes, maintenant, ont ressurgi. Des endroits où la communauté, comme j'ai connu à Kenitra, était composée de 18, 20 chrétiens qui participaient à la messe du dimanche, maintenant est devenue une communauté de plus de 120 personnes qui participent de la messe. La plupart sont des étudiants subsahariens universitaires. Tout a changé dans le sens extérieur. La célébration de l'Eucharistie, c'est la même. Mais la dynamique, l'animation, les chants, la joie, l'enthousiasme, tout cela s'est beaucoup amélioré parce que les jeunes apportent toujours de la nouvelle sève, de la nouvelle vie. Et ça nous a donné beaucoup de joie dans nos communautés.
Avant la pandémie, 500 personnes assistaient à la messe à Rabat, se réjouit le cardinal. On compte 30 000 catholiques à l'heure actuelle au Maroc, pour la plupart des jeunes Africains, dont Franck Nama. Ce Camerounais gère la radio de la Fondation Orient-Occident, une organisation qui s'occupe des migrants subsahariens.
L'église, c'est un refuge. C'est un refuge pour les migrants. Bon, c'est vrai, quand je parle migrants, ou même pour les étrangers, c'est pas que les migrants, c'est-à-dire que vraiment pour les étrangers, quand les étrangers arrivent au Maroc et qu'ils sont chrétiens, l'église, c'est le premier point de repères. C'est-à-dire que ça leur permet de pouvoir se poser et de rentrer en confiance. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans un environnement où ils vont très vite perdre leurs repères. Pourquoi ? Parce que la société dans laquelle ils vivent a une certaine tradition. Oui, c'est un grand choc culturel, qui d'ailleurs est peut-être la raison pour laquelle il y a autant de migrants qui sont pratiquants. Très souvent, il arrive que les gens dans leur pays ne pratiquaient pas la foi. Mais une fois quand ils sont arrivés au Maroc ou bien dans un pays musulman, ils deviennent pratiquants. Précisément pour ça, parce que l'environnement dans lequel ils vivent les interpelle à se caser. Pourquoi déjà la population d'accueil, le pays d'accueil dans lequel ils vivent est un pays qui est musulman et où il y a une tradition culturelle qui veut que les gens prient de manière régulière. Alors à ce moment, par réflexe, ou bien je ne sais pas trop, de manière consciente ou inconsciente, les gens se dirigent vers l'église et donc à un moment donné deviennent pratiquants de leur foi.
Au fil du temps, les messes personnelles données à la maison se sont multipliées. Ce qui au début était très inhabituel pour les voisins marocains musulmans a très vite été accepté, souligne Franck Nama, du moins en grande partie.
Mais il peut arriver effectivement quand vous montez dans un taximan vous demande « Une musulman, moi, la messia ?» Si tu lui dis « Je suis chrétien », il essaie « Mais non, il faut devenir musulman ». Il peut essayer de te convertir.
La cohabitation des différentes religions a rendu la société marocaine plus tolérante. Outre les autochtones, les chrétiens européens, eux aussi, ont dû s'adapter. Par exemple, au fait que dans les églises, ils sont désormais en minorité. Les migrants sont jeunes, pleins d'énergie et pratiquent leur foi différemment.
Elles sont extrêmement jeunes parce que la plupart de ces migrants, souvent, qui arrivent sont effectivement elles-mêmes également jeunes. C'est des gens qui rêvent d'aventure, souvent qui rêvent d'aller en Europe. Et donc, c'est des gens qui sont effectivement à la fleur de l'âge et qui ont beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand vous allez dans ces églises, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'animation. C'est pratiquement une fête. D'ailleurs, même, qui amène également souvent un petit conflit parce que souvent, la pratique de la foi en Europe n'est pas forcément aussi vive que la pratique de la foi chrétienne en Afrique. Donc, du coup, les Européens sont souvent perdus. C'est-à-dire que du coup, quand ils arrivent à l'église, on a l'impression que les gens sont en train de danser et tout et tout. Et puis, ils ont l'impression qu'il y a même une déviation de la foi. Parce que pour eux, c'est un espace de concentration, un espace de méditation. Et pourtant, pour les migrants, c'est un espace d'exaltation, de la joie.
Pourtant, les deux côtés se sont habitués l'un à l'autre et vivent en bonne entente. La migration chrétienne venue d'Afrique transforme la vision que la société très majoritairement musulmane du Maroc se fait de la chrétienté, analyse le politologue Merdi Alioua.
Le fait que ce soit des chrétiens qui viennent du sud, notamment d'Afrique, a renouvelé beaucoup de choses, qui ne nous ont jamais colonisés, qui n'ont jamais participé à aucun massacre, ni à aucun tentative de déstabilisation, qui sont simplement venus pour vivre parmi nous, pour suivre leurs études, ou alors pour passer en Europe, et qui n'ont pas réussi à passer en Europe. Et ces populations-là sont plutôt d'origine modeste, même s'il y a différentes catégories, évidemment, mais on retrouve plus majoritairement dans les migrants issus des pays d'Afrique subsaharienne des catégories modestes. Ça veut dire qu'on peut être modeste, qu'on peut même être pauvre au Maroc et être chrétien, alors que pendant longtemps, être chrétien, c'est être dominant, c'est être puissant, c'est être un colon. C'est aussi être arrogant et imposer par la force certaines choses. Et donc il y a comme une sorte de retournement. Et donc il n'y a pas un rapport de domination et ils amènent un autre regard des Marocains sur la chrétienté.
La tolérance est donc de mise, oui. Mais cela ne règle pas pour autant tous les problèmes. Par exemple, celui des quelques Marocains musulmans sur les bancs des églises. Se convertir leur est interdit par la loi royale. Tout Marocain qui assiste à une messe chrétienne doit en être informé. Le prosélytisme, essayer de convaincre quelqu'un de se convertir, est interdit. Mais dans les faits, personne n'est chassé d'une église. Merdi Alioua est convaincu que la nouvelle migration chrétienne aura forcément une influence sur la politique du Maroc.
Peut-être que les futures générations, les enfants de ces migrants-là, poseront de nouvelles questions à la société marocaine, parce que peut-être qu'ils voudront être non seulement citoyens au Maroc, mais carrément compatriotes marocains, ils auront carrément la nationalité marocaine. Et donc la question qui se pose, c'est peut-on être de nationalité marocaine et chrétien ? En toute logique, oui, mais peut-être que là-dessus, il y aura des futurs débats et des futurs affrontements qui n'ont pas lieu aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration.
Merci à Dunia Sadaki qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
Nous sommes le 26 janvier 1905. Il y a donc 116 ans aujourd'hui. En Afrique du Sud, dans une mine de diamants située près de Pretoria, c'est là que l'on découvre ce jour-là le Cullinan, le plus gros diamant brut jamais trouvé. Il porte le nom du propriétaire de la mine, Thomas Cullinan. Outre sa taille et son poids, 3106 carats, soit un peu plus de 621 grammes, c'est sa pureté qui est exceptionnelle. Moins d'1% des pierres précieuses atteignaient cette qualité. Le gouvernement de la province sud-africaine du Transvaal achète le Cullinan 2 ans plus tard et décide de l'offrir au roi Édouard VII pour le remercier de lui avoir accordé l'indépendance. Le voyage à Londres donne lieu à un stratagème. Un bateau accompagné d'un convoi lourdement armé simule un acheminement ultra sécurisé alors que le vrai diamant est tout simplement envoyé en Angleterre par la poste dans un paquet ordinaire. Un spécialiste néerlandais, à qui Édouard a confié la pierre, plaide pour la découper en plusieurs morceaux pour pouvoir la travailler. Finalement, le Cullinan a donné jour à 9 énormes diamants principaux et 96 brillants réalisés à partir des éclats résultant du découpage effectué au marteau. Les plus connus sont les Cullinan 1 et 2, les plus gros. Le premier, appelé la Grande Étoile d'Afrique, taillé en forme de poire à 74 facettes, orne le sceptre impérial britannique. Et le second, la petite étoile d'Afrique, est serti sur le devant de la couronne d'Angleterre. The Black Mamba has a killer instinct that's unmatched. Kobe's the closest thing this league has ever seen to Michael Jordan. One of the greatest work ethics we've seen. The continual quest to be great. That's the Mamba mentality. On se dirige vers la fin de ce numéro de Pulsation avec un son de Kobe Bryant, le basketteur star de la NBA décédé tragiquement il y a tout juste un an lors d'un accident d'hélicoptère. Cette chanson, extraite d'un album qui n'est jamais paru, s'intitule Mamba Mentality. Le Black Mamba, c'est le surnom que le quintuple champion de NBA s'était lui-même donné, car sur les parquets, il était aussi dangereux que le serpent du même nom. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut.